Il y a encore un micro ou deux qui est activé, mais je n'arrive pas à voir où. Bon, voilà. Allez, mes amis, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Essayez, ceux à qui je ne suis pas arrivé à désactiver le micro, essayez de le désactiver. Et après, bien sûr, on passera aux questions. Voilà. Donc, comme vous le savez, on a dit qu'aujourd'hui, on parlerait de la fête de Hanouka. C'est ce soir. Chez nous, en Israël, on va commencer à allumer les bougies à partir de 5h moins le quart à peu près, quand tombe la nuit. Et on va essayer d'expliquer, bien sûr, d'une manière un peu plus profonde le sens de Hanouka. On va parler, bien sûr, des Grecs comme étant la source du monde occidental, comme tout le monde le sait, et quel était véritablement le combat entre la Grèce et Israël. D'autant plus que les Grecs n'ont pas détruit le temple. À la différence des Babyloniens qui ont détruit le premier temple, les Romains ont détruit le deuxième temple. Ils ont voulu véritablement effacer, on pourrait dire, toute nationalité d'Israël sur sa terre. Mais les Grecs n'ont pas détruit le temple. Et on va expliquer une chose assez étonnante. Les Grecs, finalement, ne se sont attaqués qu'à l'huile. Ils ont rendu impure l'huile avec laquelle on allumait la menorah. La menorah en hébreu veut dire, comment on dit en français la menorah? Le chandelier. Il y avait un chandelier à 7 branches, contrairement à Hanouka où il y a 8 branches, parce que le miracle a duré 8 jours. Mais le chandelier dans le temple n'avait que 7 branches, et je vais expliquer bien sûr le sens caché et profond. Et les Grecs ne se sont attaqués qu'à l'huile. C'est-à-dire que finalement, bon, ils ont rendu impure cette huile-là, en sachant qu'Israël n'allumerait pas le chandelier avec de l'huile impure. Ils ont amené des reptiles morts et ils ont touché toutes les huiles qui étaient dans le temple avec ces reptiles morts ou autre chose. Je ne sais pas, j'y étais pas pour savoir avec quoi ils les ont rendus impures. Mais en tout cas, ils ont rendu impures les huiles. Alors la question, bien sûr, c'est pourquoi ils se sont attaqués précisément à l'huile. L'huile avec laquelle on allume justement la menorah, on allume le chandelier. Qu'est-ce que cela représente? Alors l'un des secrets importants dans l'allumage quotidien, pardon, puisque chaque jour on allumait dans le temple le chandelier, qu'est-ce que cela signifie? Alors le chandelier a 7 branches. Les 7 branches font allusion à les 7 jours de la création, et plus particulièrement aux 7 jours qui ont permis la création de ce monde, qui est en vérité le but ultime de toute la création, puisque c'est dans ce monde que se trouve l'homme, et l'homme ne se trouve pas dans un autre monde. Et donc, puisque l'homme, qui est la finalité de toute la création, se trouve dans ce monde matériel, il est donc clair que c'est ce monde matériel qui est la finalité, le but final de toute la création. Et ce monde est un monde matériel. Mais d'un autre côté, on allume une lumière dans les 7 branches de ce monde matériel, et cela correspond à un enseignement que j'ai déjà donné des dizaines de fois, mais qui à Hanouka prend un sens peut-être plus profond. C'est qu'en vérité, vous savez que le premier jour, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, Dieu a créé la lumière. De quelle lumière s'agit-il? Puisque les astres, selon les codes bibliques, je ne rentre pas dans les détails, les astres ont été créés le quatrième jour, le cinquième jour, pardon. Le quatrième jour, pardon. Donc, le soleil, les étoiles, la lune ont été créés le quatrième jour. Donc, de quelle lumière parle-t-on? Alors, de nombreuses explications expliquent qu'il s'agit de la lumière de la délivrance, c'est-à-dire la lumière qui est cachée à l'intérieur de ce monde et qui, dans chaque génération, prépare en secret la délivrance finale. Mais où est-elle cachée, cette lumière? puisque cette lumière s'appelle, d'après nos maîtres, Or Haganouz, traduction en français, la lumière cachée. Et où elle est cachée, cette lumière? Nos maîtres disent qu'elle est cachée dans le monde matériel. C'est-à-dire que cachée dans le monde matériel signifie qu'on comprend que la délivrance finale sera le dévoilement de cette lumière qui est cachée à l'intérieur de la matière, c'est-à-dire, traduit dans un langage moderne, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Puisque le monde matériel représente le monde d'en bas, la lumière représente le monde d'en haut, et Dieu a caché cette lumière dans le monde matériel. On ne la voit absolument pas, puisque 99,9% des gens qui sont dans le monde matériel n'imaginent même pas que la lumière de la délivrance, la lumière de Dieu, la lumière d'Hachem est cachée dans le monde matériel. Et donc, quand on est dans le monde matériel, on ne vit que pour l'intérêt, le plaisir, le « et moi, et moi, et moi ». Et qui peut imaginer que Dieu a caché la lumière de la délivrance dans le monde matériel? Pratiquement dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, on nous dit que la lumière, la délivrance se trouve en haut et qu'un jour elle descendra en bas. Ils ont tous tort, parce que ce n'est absolument pas vrai. La lumière de la délivrance est cachée dans le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je me répète, le fait que la lumière est dans le monde matériel fait allusion au fait qu'au moment de la délivrance, il y aura une unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y aura une unité entre l'âme et le corps, comme on en parlera dans quelques instants, il y aura une unité entre Dieu et son monde, une unité. Et une unité ne signifie pas, comme je l'ai souvent expliqué, l'uniformité, et encore moins la soumission. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que nos maîtres expliquent que le plus haut niveau de connexion avec Dieu, c'est un niveau d'association. Ça veut dire que dans toutes les religions, on appelle Dieu notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu. Bref, que des imbécilités. Excusez-moi de parler à Ladinovitch. Et en vérité, nos maîtres, qui sont les seuls à dire la vérité, nous expliquent qu'en vérité, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des associés. Ça veut dire quoi, des associés? Mais comme dans une affaire, chacun a ses responsabilités, chacun a son travail. Aucun des deux ou des trois ou des quatre qui sont associés ne peuvent dire « écoute, fais le travail à ma place ». Non, et si on est associé, fais ton travail et moi je fais le mien. Et donc, pourquoi Dieu veut qu'on soit des associés? Parce qu'il refuse que l'homme se soumette complètement à Dieu dans le sens « c'est toi qui vas tout faire ». Et moi, je ne fais que te demander d'intervenir, mon sauveur, mon seigneur, mon truc, quoi. Et donc, nos maîtres disent clairement dans nos livres que le but ultime, c'est l'association. Et l'association, c'est quoi? L'association entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comment on va le voir, justement? Je vais peut-être parler un petit peu plus que d'habitude aujourd'hui. Comment on va le voir avec les Kohanim à Hanouka? Mais donc, maintenant, je reviens. Pourquoi les Grecs ont justement rendu impure l'huile? Parce que les Grecs étant la source du monde occidental, le monde occidental ne veut pas que le monde d'en haut se dévoile dans ce monde matériel, et le monde occidental ne veut absolument pas qu'il y ait la moindre connexion entre le monde matériel et le monde occidental, entre le monde matériel, pardon, et le monde d'en haut. C'est pour ça qu'on a créé les églises et qu'on a créé les synagogues. Comme je l'explique souvent, tu veux être religieux, fiche-moi la paix, va à l'église, va à la synagogue, mais ne me casse pas les pieds. C'est pour ça qu'on a créé donc des lieux de culte qui sont en vérité des lieux où on sort de ce monde pour se réfugier dans un fantasme, dans une illusion spirituelle qui n'a aucune vérité, puisque comme je l'ai souvent expliqué, là où se trouve vraiment Dieu, là où il se dévoilera véritablement, c'est précisément dans le monde matériel et certainement pas dans une synagogue et certainement pas dans une église. Ce ne sont que des illusions, que des mensonges d'aller chercher Dieu dans une église ou dans une synagogue. Et donc, les Grecs, qui avaient une connaissance énorme de la Torah, parce que figurez-vous qu'avant que les Grecs ne commencent à soumettre Israël, il y a eu pendant longtemps, je ne sais pas si vous allez le trouver dans Google, etc., parce que bon, Pas tout n'est connu même par Google, mais en tout cas, nos maîtres nous expliquent que pendant de nombreuses décennies, il y avait une amitié assez profonde entre la Grèce et Israël. D'ailleurs, Israël s'est lié avec la Grèce pour combattre les Perses. Et il y avait énormément de philosophes grecs qui venaient en Israël et qui avaient des discussions très profondes avec les maîtres d'Israël. Et les maîtres d'Israël leur enseignaient énormément de choses. Sachez que Socrate et Platon étaient de grands, grands amis, de grands maîtres d'Israël, comme Rabbi Houda Anassi et d'autres. Tout ça s'est marqué depuis des millénaires dans nos textes. Chose que le monde occidental ne sait peut-être pas. Mais il y a eu vraiment un lien entre les Grecs, et je vais le prouver par un verset tout à l'heure, entre les Grecs et Israël. Après, il y a eu un retournement. Parce que le pouvoir, d'une certaine manière, a pris le dessus. Et comme on le sait, le pouvoir est complètement corrompu dans tous les pays jusqu'à aujourd'hui, y compris dans le nôtre. Et donc le pouvoir, c'est vraiment des gens extrêmement corrompus qui ne cherchent que l'argent, que l'ego, etc. Et donc le pouvoir a pris le dessus en Grèce, d'une certaine manière, a mis les philosophes de côté, qui étaient de grands amis d'Israël. Si vous lisez par exemple le Guide des égarés que vous pouvez trouver en français de Maïmonide, vous verrez que Maïmonide a un respect inimaginable pour les philosophes grecs. Il ose même dire que les philosophes grecs sont arrivés pratiquement au niveau de la prophétie. Pourtant, Maïmonide est l'un des plus grands maîtres d'Israël, mais il reconnaît que les philosophes grecs, je parle des vrais, je parle de Platon, Socrate, il y en avait peut-être encore un ou deux dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, Platon et Socrate avaient des liens très, très, très forts avec les grands maîtres d'Israël. Ils s'aimaient énormément. Mais quand le pouvoir grec a commencé à prendre le dessus, ils ont mis les philosophes de côté et ils ont décidé de partir à la conquête du monde entier, y compris d'Israël. Mais donc, comme il y avait eu un lien entre les philosophes grecs et Israël, les philosophes grecs avaient propagé dans leur propre peuple ce qu'ils avaient appris des maîtres d'Israël, entre autres cette notion, l'allumage de la menorah, du chandelier, qui signifie qu'un jour, il y aurait une connexion entre le monde matériel et le monde spirituel, une association, je préfère dire, entre le monde spirituel et le monde matériel, où l'homme sera un homme équilibré, il saura quand il doit être avec Dieu et quand il doit agir lui-même pour s'occuper de son monde sans penser que Dieu est le seul qui fait tout, comme malheureusement dans toutes les religions. Et donc, il le savait, et donc c'est pour ça que l'armée grecque a décidé justement de souiller les huiles, comme pour transmettre un message, nous refusons totalement le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Nous ne refusons pas le monde spirituel, mais allez le chercher à l'église ou à la synagogue, foutez-nous la paix. Dans le monde matériel, il n'y a que nous qui dirigeons. Séparation totale en français entre ce qu'on appelle l'église et l'État, en Israël, entre la synagogue et l'État. Et c'est vrai dans tout le monde occidental, puisque Israël est entièrement aujourd'hui, au niveau des dirigeants, bien sûr, a totalement adhéré à l'idéologie occidentale, au niveau des dirigeants, je dis bien. Et donc ça a été donc la raison pour laquelle ils ont rendu impures les huiles. Encore une fois, avant de passer à la deuxième partie, le message était, nous refusons totalement l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Nous voulons une séparation totale. Ceux qui veulent le monde matériel ne seront que dans le monde matériel. Ceux qui veulent le monde spirituel ne seront que dans le monde spirituel. Mais pas d'union entre les deux. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé au niveau de la révolte d'Israël contre les Grecs. Apparemment, cette révolte est complètement au-dessus de l'entendement. D'abord parce que les Grecs étaient l'armée la plus puissante du monde. Personne ne pouvait les vaincre. Partout où ils allaient, ils sont arrivés à soumettre les peuples. Je raconte juste une petite histoire. Une histoire qui est dans le Talmud, qui remonte à plus de 2000 ans. une seule fois, à part l'histoire de Hanouka où Israël est arrivé à vaincre les Grecs, on va l'expliquer dans quelques instants, il y a une autre fois où les Grecs ont été vaincus. Et en plus, les Grecs avaient à ce moment-là à leur tête Alexandre le Grand. Vous savez où ils ont été vécus ? En Afrique. Et vous savez par qui ils ont été vaincus ? Par une armée de femmes. Il y avait en Afrique une armée de femmes qui étaient des guerrières inimaginables. Cette histoire est explicite dans le Talmud, il y a plus de 2000 ans. Et donc, Alexandre le Grand a décidé, après qu'il avait conquis pratiquement toute l'Europe et tout le Proche-Orient, il a décidé de conquérir l'Afrique. Et il est arrivé à conquérir de grandes parties de l'Afrique jusqu'à ce qu'il arrive sur une armée de femmes africaines, des femmes noires, africaines, et qu'ils l'ont mis à genoux, complètement à genoux. Les femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée grecque. Et donc, c'est une histoire, je ne sais pas si vous la trouverez dans Google, mais en tout cas, elle est dans le Talmud, une histoire assez extraordinaire. Et comment ces femmes-là sont arrivées ? Bon, ben d'abord, physiquement, c'était de vraies guerrières, mais elles étaient très peu nombreuses par rapport à Alexandre le Grand, mais elles sont arrivées malgré tout à le repousser. Donc, finalement, l'armée grecque n'a perdu que deux guerres. En Afrique, contre les femmes africaines, qui étaient de vraies guerrières, et maintenant, on revient à l'histoire de la révolte d'Israël. Alors, il faut savoir, mes amis, qu'au moment où les Kohanim décident de prendre la tête de l'armée, on peut dire que les deux tiers d'Israël étaient complètement assimilés. Ils étaient hellénistes, exactement comme aujourd'hui, où 70%, si pas 80% des Juifs de par le monde, y compris en Israël, sont complètement assimilés. C'est pour ça que nos prophètes parlent de Sheherit Israël, le restant d'Israël, parce qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main les vrais Juifs qui restent encore aujourd'hui. Malheureusement, après des millénaires d'exil, 3000 ans d'exil, comment voulez-vous que la majorité des Juifs ne soient pas complètement assimilés, et avec des hauts et des bas, mais en tous les cas, ils sont plus dans le monde occidental qu'avec la Torah. Et malheureusement, à l'époque des Grecs, au moment où il y a eu la révolte des Kohanim, une grande partie d'Israël était complètement hellénisée aussi. Tout ça, c'est bien sûr nos maîtres qui nous l'expliquent il y a déjà des millénaires. Pourquoi ? Parce que les Grecs, c'était une séduction magnifique. La philosophie, le sport, les Jeux Olympiques. Et puis les Grecs ne se présentaient pas comme, à la différence des Romains, qui ont véritablement massacré pas seulement les Juifs, mais qui ont massacré tous ceux qui étaient sur leur passage. Et les Grecs, d'une certaine manière, acceptaient ceux qui rentraient dans leur idéologie, qu'ils soient juifs, qu'ils soient perses, qu'ils soient irakiens, qu'ils soient tout ce que vous voulez, ils les acceptaient. Les Grecs avaient, on peut dire, un bon côté. Ils ne voulaient pas détruire les nations, ils voulaient simplement les soumettre à leur idéologie. En Israël, ça a marché très fort, pratiquement 70%, 80% des Juifs se sont complètement assimilés et refusaient totalement de se battre contre les Grecs. Liliane nous le dit, c'était les Amazones, absolument, oui, Liliane, qui c'est Liliane, oui, c'était les Amazones, effectivement, les femmes Amazones qui se sont battues contre les Grecs, absolument. Et donc, il restait très peu de Juifs qui ne voulaient pas, bien sûr, se déconnecter de l'identité d'Israël authentique. Et finalement, qui c'est qui a donné le signal de la révolte ? C'était non seulement des Kohanim, mais la famille des grands prêtres, ce qu'on appelle en hébreu le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et là, c'est quelque chose, le message est inimaginable. Pourquoi ? Parce que dans notre tradition, plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui nos dirigeants fonctionnent d'après le monde occidental, mais pendant des siècles, en tout cas quand on était en Israël, avant la destruction du premier temple et aussi avant la destruction du deuxième temple, les Kohanim n'étaient absolument pas enrôlés à l'armée. Les Kohanim étaient, entre parenthèses, les serviteurs de Dieu. Leur travail, c'était de travailler au temple ou d'enseigner la Torah dans toutes les villes où ils étaient. C'était des enseignants de Torah ou des serviteurs dans le temple. Mais on interdisait aux Kohanim de rentrer à l'armée. C'était absolument interdit. Donc, ils n'avaient aucune expérience militaire, aucun entraînement militaire. C'était des serviteurs de Dieu. Et voilà que tout d'un coup, les Kohanim décident de devenir les dirigeants d'une petite armée qui va se battre contre les Grecs. Pourquoi les Kohanim? Les Kohanim auraient pu très bien dire, comme le font tous les détraqués jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous, on va prier et vous allez vous battre. Et grâce à nos prières, vous allez gagner. Le plus grand de tous les mensonges qui n'a jamais été émis dans ce monde. Comme si c'est grâce aux prières qu'on va gagner. Non, c'est grâce au fait que tu te bats avec une épée dans la main que tu vas gagner, pas grâce à la prière. Et donc, quand il faut se battre, bien évidemment, quand tu es en danger. Et donc, il y a eu ici un message fabuleux. Les Kohanim ont compris que puisque toute l'intention des Grecs était de séparer le monde d'en haut du monde d'en bas, c'était justement aux Kohanim qui représentent le monde d'en haut de descendre dans le monde d'en bas et de se connecter avec le monde d'en bas de manière à unir le monde d'en haut au monde d'en bas. Puisque justement, les Kohanim représentent le monde d'en haut, le restant d'Israël représente le monde d'en bas, il y a bien sûr une unité entre les Kohanim et Israël, mais les Kohanim ont compris que c'était précisément à eux de jouer le rôle d'être les officiers et les dirigeants de l'armée qui allait se révolter contre Israël, parce que justement ils ont compris que précisément dans la mesure où toute l'idéologie grecque était de séparer le monde d'en haut du monde d'en bas, c'était précisément à eux de descendre dans le monde d'en bas pour prendre une épée et se battre comme de véritables soldats. Et c'est pour ça que quand Dieu a vu, on pourrait dire, cette prise de conscience inimaginable des Kohanim, qui était à des années-lumière apparemment d'imaginer qu'ils prendraient une épée à la main parce que ce n'est pas du tout leur rôle et pas du tout leur travail. C'est pour ça que finalement, cette petite armée a été aidée d'une manière surnaturelle, l'association entre l'homme et Dieu. L'homme a fait son travail. Vous risquez votre vie, vous vous battez. Vous imaginez les milliers de Juifs qui sont morts sur le terrain, parce que de toute façon, ils se battaient à 1 contre 50 ou à 1 contre 100. Donc énormément de Juifs ont péri, énormément de Kohanim ont péri aussi. Mais malgré tout, ils ont fini par gagner. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette association entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Dieu et Israël. Et finalement, ils sont arrivés à repousser les Grecs de la terre d'Israël. C'est inimaginable. Sur le terrain, bon, on n'y était pas. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Donc, je ne sais pas exactement comment ils sont arrivés à repousser les Grecs, l'armée la plus puissante du monde. Mais ils sont arrivés à le faire malgré tout. Et tout ça, parce qu'encore une fois, le monde d'en haut, les Kohanim ont compris que leur mission était de s'unir au monde d'en bas. Malheureusement, bien que les choses, comme je l'ai souvent expliqué, ont complètement changé, on va dire, ces 10-15 dernières années en Israël, mais malheureusement, le monde ultra-orthodoxe en Israël, jusqu'il y a à peu près une quinzaine d'années, refusait totalement que leurs enfants s'enrôlent dans l'armée, refusait totalement que un enfant non seulement puisse devenir un soldat mais puisse même faire du sport. C'est tu pries, tu étudies toute la journée. Heureusement, la nouvelle génération s'est révoltée contre, on pourrait dire, l'établissement religieux. Comme je vous l'ai souvent expliqué, j'ai jusqu'au corona, j'étais moi-même enseignant à l'armée dans les unités combattantes et les unités d'élite. Et je voyais de plus en plus d'enfants ultra-orthodoxes arriver à l'armée, quelque chose d'absolument fou. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers qui n'écoutent plus leurs parents. Pourquoi? Exactement comme les Kohanim à l'époque de Hanouka. Ils ont compris qu'on leur mentait. Ah non, vous priez et comme ça on gagnera la guerre. Non, vous prenez une épée et comme ça on gagnera la guerre. Mais pas en priant. À la rigueur, ceux qui doivent prier, c'est les vieux, ceux qui ne peuvent pas s'engager dans l'armée. Alors eux, effectivement, qu'ils prient. Et non, je le dis de manière sincère, qu'ils prient, effectivement, qu'ils prient. Mais les jeunes, leur travail est de prendre une mitraillette et de se battre. Et pas de rester. Je ne comprends pas. Ton frère qui a 18 ans, lui, il va risquer sa vie sur un champ de bataille, et toi, tu te réfugies dans une synagogue pour prier. Mais comment on peut supporter de tels mensonges? Comment on peut supporter un... C'est inimaginable. Et malheureusement, pendant pratiquement 70 ans, tout le monde orthodoxe en Israël interdisait aux enfants d'aller à l'armée. Il y a eu encore une fois une révolution ces 10-15 dernières années. Et aujourd'hui, on trouve de plus en plus et dans plus en plus de juifs très, très pratiquants qui s'enrôlent non seulement à l'armée, mais même dans les unités d'élite. Parachutistes, Golani, Givati, enfin dans toutes les unités où c'est ceux qui sont en première ligne. Et c'est précisément des enfants de familles orthodoxes. En Israël, personne n'en parle parce qu'ils sont tellement terrorisés par le fait qu'ils voient des dizaines de milliers d'orthodoxes arriver à l'armée. La presse préfère ne pas en parler et continuer à faire croire que les orthodoxes ne vont pas à l'armée. Mais aujourd'hui, il y a une révolution totale qui est exactement ce que les Kohanim ont fait. Exactement ce que les Kohanim ont fait. Il faut qu'on comprenne, mes amis, que c'est précisément un juif pratiquant qui est le premier qui doit s'engager à l'armée. Et vous savez d'où je le sais, c'est pas de moi. Sachez que dans l'armée du roi David, il n'y avait que des soldats qui étaient ultra-orthodoxes. Bon, j'aime pas le mot ultra-orthodoxe parce que ça fait vraiment bidon, mais bon, j'ai pas le choix puisqu'on parle en français. Il n'y avait que des ultra-orthodoxes dans l'armée du roi David. Que des ultra-orthodoxes. Si quelqu'un était laïque ou si quelqu'un ne faisait pas bien tous les commandements divins, David le refusait dans son armée. C'est-à-dire l'armée du roi David n'était composée que de ultra-orthodoxes. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on explique. C'est précisément celui qui est en haut qui doit s'unir au monde d'en bas. Ou alors quelqu'un qui est dans le monde d'en bas, qui fait teshuva, qui revient vers Dieu et qui va s'unir au monde d'en haut, lui aussi pourra rentrer dans l'armée de David. Mais quelqu'un qui n'est que en bas ne pouvait pas rentrer dans l'armée de David, même s'il était hyper costaud, même s'il avait des muscles comme ça, etc. David disait non, dans mon armée, je veux l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Malheureusement, comme on le sait, c'est tout le contraire qu'on vit dans notre monde occidental, où ceux qui sont très très religieux font tout pour ne pas s'engager à l'armée en se berçant d'illusions et de mensonges, en se disant, moi je vais prier, moi je vais étudier la Bible, etc. Et comme ça je protégerai mes soldats, ce qui est le plus grand mensonge jamais émis sur terre. Mais quoi qu'il en soit, donc on comprend, donc je fais un résumé, après je vais passer à la troisième et après quatrième partie. Le résumé est... Ils ont rendu impure l'huile pour séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Les Kohanim l'ont compris. Ils se sont dit, précisément nous qui sommes tout en haut, on doit descendre en bas pour réunir et faire le contraire de ce que les Grecs ont fait. Maintenant, on va passer à la troisième partie, et après il y aura une quatrième partie, qui est un petit peu compliquée. Si vous avez lu la paracha de Noé, vous voyez que Dieu dit au sujet des Grecs, puisque dans la Torah, les Grecs, comment ils s'appellent? Yafet. Pourquoi ils s'appellent Yafet? Parce que c'est le monde occidental, la beauté extérieure. Yafet vient du mot Yafé, qui veut dire la beauté. Les Jeux olympiques, les muscles, les beaux hommes, les belles femmes, les trucs, machin, etc. Ça veut dire le monde occidental qui a une vitrine exceptionnellement belle, d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que dans la Torah, Yafet, on pourrait dire le mot grec se dit Yafet. Mais en vérité, toute notre tradition nous dit que c'est, en vérité, c'est Yavan. Yavan, qui veut dire en français les Grecs. En hébreu, Yavan. Jusqu'à aujourd'hui, en hébreu moderne, on dit Yevanim, les Grecs. Yavan, la Grèce. Mais c'est les Grecs. Il y a un verset fou qui dit Yaft Elohim. Yaft Elohim et Yafet Be'oaleshem. Un jour viendra où Yafet, Yavan, sera dans la tente de Shem. Shem, on sait très bien, Noé a eu trois fils. Shem, c'est le monde spirituel. Yafet, c'est le monde occidental. Cham, on va dire, c'est le monde de la force, dans le sens physique du terme. Bon. C'est un peu plus compliqué de parler de Ham, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de Yafet. Yafet, c'est l'origine du monde occidental. Puisqu'on vient d'expliquer que justement toute l'idéologie du monde occidental, qui a été pour la première fois représentée par les Grecs, c'est de séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Comment un verset dans la Torah peut nous dire qu'un jour viendra où Yafet sera dans la tente de Shem? Traduit en langage moderne, c'est que le monde matériel, le monde occidental représenté par Yafet, s'unira au monde spirituel qui est le monde de Shem. Shem sort entre autres Israël. Abraham, Israël, Jacob étaient des descendants de Shem, du monde ce qu'on appelle le monde Shémite. Sémite en français, Shémite en hébreu. Comment c'est possible? Comment il puisse y avoir un verset pareil? Eh bien, la réponse, elle est aujourd'hui. On voit effectivement dans le monde occidental des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions, toutes langues confondues, espagnol, français, russe, anglais, etc., italien. On voit un réveil chez les nations inimaginable pour se connecter à des enseignements de spiritualité authentique. De plus en plus, on voit chez les nations, on pourrait dire, un dégoût de tout ce qui est ce qu'on appelle la religion et la recherche d'une vraie spiritualité qui fait de moi un homme et une femme authentique, c'est-à-dire je suis dans ce monde, mais je suis connecté à Dieu. Je ne fuis pas ce monde, je ne tourne pas le dos à ce monde, mais je suis connecté à Dieu tout en étant dans ce monde, ce qui est la spiritualité authentique, puisque toutes les religions, finalement, nous ont endormis dans une illusion et dans un mensonge inimaginable de nous déconnecter de ce monde. Et donc, on voit un réveil extraordinaire. On est aujourd'hui dans la génération où commence à s'accomplir ce verset qui date de plus de 4000 ans, où un jour viendra où Yavan, les Grecs, seront dans la tente de Shem. Alors évidemment, on ne parle pas des dirigeants, parce que là, il n'y a aucun risque. On parle bien sûr des peuples. Comme on le sait, la délivrance ne viendra pas d'en haut. La délivrance viendra d'en bas. La délivrance viendra des peuples. C'est les peuples qui vont se réveiller. Et surtout les peuples qui parlent le français, comme on en a fait beaucoup de cours avec Monsieur Ababou. Et vous verrez qu'au moment de la délivrance finale, ce sera la France qui sera en première ligne. Et tous ceux qui parlent français. Vous verrez que ce ne sera pas la France au niveau de ses dirigeants et malheureusement pas au niveau de la majorité, mais une forte minorité de Français comprendront dans quel mensonge l'humanité vit depuis des millénaires et elle se révoltera contre le pouvoir. Et pour moi, je n'ai absolument aucun doute, le Zohar dit que les premiers qui rallieront le Mashiach seront des hommes et des femmes des nations, ça c'est ce que le Zohar dit, et moi je rajoute, les premiers seront des Français, sûr et certain. Pourquoi? Parce que le Français a ce tempérament révolutionnaire, même si la révolution est constamment récupérée par les forces obscures comme la Révolution française, qui a complètement été récupérée, bien qu'au départ elle avait une intention véritable, juste. Mais bon, les forces obscures de ce monde font toujours tout pour tout récupérer. Mais quoi qu'il en soit, un jour viendra où le tempérament français se dévoilera à nouveau et il y aura une véritable révolution contre toute la dictature qui nous oppresse de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Vous avez entendu parler de la nouvelle variante qui est en train de maintenant de se propager partout? D'accord? Ils sont quand même forts dans les laboratoires, hein, pour créer ces variantes, hein. Ah, vous ne me croyez pas? Ah non, elle est venue toute seule, la variante. Mais non, mais arrêtez, elle est venue toute seule, comme le corona, bien évidemment. Allez. Mes amis, on est au tout début de la guerre de Gog et Magog, qui va malheureusement aussi passer par une phase de guerre réelle. Mais la première phase de la guerre de Gog et Magog, c'est affaiblir les peuples et les nations. Ils sont en train de nous rendre fous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, un nouveau vaccin, allez, ça y est, on est sauvé. 3 mois après, paf, une nouvelle variante. Et donc, on sait tous, enfin, on sait tous. Ceux qui veulent le savoir le savent. Le corona, il a été créé par les hommes. Les variantes sont créées par les hommes. Des hommes, ça veut dire toutes les forces obscures qui veulent nous écraser, nous transformer en moutons, nous transformer en robots. et nous transformer en personnages tellement faibles qu'on n'aura même plus la force de se révolter. Et comme ça, tout le pouvoir, on pourrait dire, caché derrière les poupées qui sont des dirigeants, vont nous écraser complètement. D'accord? Vous savez qui c'est qui dirige l'Amérique aujourd'hui? Ce premier qui me dit Biden, il a tort. Vous savez qui c'est qui dirige l'Amérique aujourd'hui? Obama. Oui, c'est Obama qui dirige l'Amérique. Et ça, je le tiens et je le sais, puisque j'ai des élèves en Amérique aussi, je le tiens d'Américains qui sont sur place et qui savent exactement ce qui se passe. La force cachée qui tient Biden comme une poupée entre ses mains, c'est Obama aujourd'hui. Obama. Vérifiez, vous verrez que je n'ai pas tort, ou que j'ai même raison. Vous verrez. Et il y a de très grandes chances comme quoi Biden soit évincé d'ici quelques mois. Et de plus en plus, on parle en Amérique qu'il voudrait nommer comme présidente des États-Unis la femme d'Obama. Je ne sais pas si ça se fera, mais il voudrait nommer, lui, il ne peut pas, parce que lui, il a déjà fait deux mandats, mais ils mettront sa femme et c'est bien sûr lui qui dirigera. Bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer quand même, mais ce n'est pas grave. Écoutez, si on veut être des hommes authentiques, on n'a peur de rien, sinon qu'est-ce qu'on est? Mais quoi qu'il en soit, vérifiez, vous verrez, si vous avez des relations en Amérique, téléphonez-leur et demandez-leur, et vous verrez qui c'est qui dirige l'Amérique aujourd'hui. Ce n'est pas Biden, c'est Obama. Et donc, on continue maintenant. Donc, on vit dans un monde aujourd'hui, comme l'ont enseigné nos prophètes il y a des millénaires, on va vers la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, explique nos maîtres, c'est, on pourrait dire, l'affaiblissement total des peuples pour que les grandes puissances puissent dominer le monde et nous écraser complètement. Alors, ils ont commencé maintenant avec le corona, maintenant les variantes. Tout le monde devient fou, on ne sait plus où on en est. À chaque fois, on croit, ça y est, on est sauvé. 2 mois après, paf, une nouvelle variante qu'ils ont créée dans les laboratoires et qu'ils lâchent après pour à nouveau affaiblir les peuples, etc. Et après cette variante-là, il y en aura une cinquième, une sixième, une septième, jusqu'au jour où il y aura aussi peut-être même un conflit armé. Bon, allez, redevenons maintenant positifs, redevenons maintenant bien, on arrête de parler de mauvaises choses. Et en tous les cas, il y a une chose extraordinaire. Vous savez, nos maîtres nous disent, là où il y a une grande lumière, il y a toujours une grande obscurité. Justement, aujourd'hui, il y a un tel réveil dans le monde, au niveau des nations, qui commence à comprendre dans quel mensonge on a fait vivre l'humanité tout entière pendant des millénaires. Et il y a des hommes et des femmes de plus en plus nombreux partout dans le monde qui cherchent une spiritualité authentique. Et non, comme le disait Marx, la religion, c'est l'opium des peuples. Pas l'opium, mais une vraie spiritualité qui fait de nous des gens forts, des gens courageux, des gens qui n'ont peur de rien et qui sont capables d'affronter toutes les difficultés de ce monde. C'est ça un homme, c'est ça un vrai. Bon, je vais pas, j'aime pas le mot religieux, mais c'est ça un vrai religieux. C'est le roi David qui toute sa vie s'est battu contre tout le mal qu'il y avait dans le monde. Et chaque seconde, il risquait sa vie, il risquait de se faire couper la tête, de se faire torturer à mort s'il était fait prisonnier. Et il n'a jamais renoncé. Et c'était l'homme le plus spirituel qu'il y avait dans sa génération. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la spiritualité authentique, c'est justement être un homme courageux dans ce monde. Le contraire de ce que nous font croire toutes les religions. Remettez le petit mot qu'il y avait là, ça m'a intéressé, je n'ai pas eu le temps de le lire. Quelqu'un m'a envoyé un petit mot, si vous pouvez le remettre. Dernière partie de ce cours avant de vous laisser poser des questions. Vous savez que nos maîtres nous disent, c'est codé bien sûr, à plusieurs scientifiques, ah oui Alain, plusieurs scientifiques français indiquent que l'Europe a commandé jusqu'à 7 doses par citoyen. Oui, bien sûr, nous aussi on le sait qu'ils sont en train de préparer. Mais pourquoi? Bon, alors. Je vais vous le dire pourquoi. L'argent, pas seulement l'argent, mais vous avez 100% raison, pas seulement l'argent. N'oublions pas tout ce que les dirigeants qui coopèrent avec Pfizer, Moderna et tous ces trucs-là, tout ce qu'ils reçoivent sous la table, d'accord. Mais ce n'est pas seulement ça. Tous ces milliards que les firmes pharmaceutiques sont en train de faire vont être en grande partie récupérés pour une avancée technologique tellement inimaginable qu'on va tous devenir des robots. Vous allez voir. Ils vont propulser la technologie à un niveau tel qu'on va tous devenir des robots. Au niveau de leur volonté à eux, je ne sais pas si ça se réalisera, j'espère que non, puisque nos prophètes disent que la guerre de Gog et Magog n'aboutira pas et que finalement Dieu va se dévoiler, le Mashiach aussi. Mais disons que c'est leur intention. Et nous allons nous réveiller, absolument. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, que les peuples commencent à comprendre comment ils sont manipulés. Et donc, en vérité, comme vous le savez, que toutes les plus grandes puissances financières ont tous des actions dans les firmes pharmaceutiques, puisque ce sont les firmes les plus riches du monde avec les firmes d'armement, et donc c'est eux qui créent les poisons pour après vendre leurs médicaments. Je parle au niveau des grandes firmes, je ne parle pas de la petite infirmière et le petit médecin qui, lui, ne sait même pas à quel point il est manipulé. Mais quoi qu'il en soit, le but final, c'est de récupérer des milliards et des milliards de dollars pour lancer une technologie qui sera tellement, tellement, tellement puissante que finalement, on va tous se retrouver isolés avec des applications, des ci, des ça. Et finalement, la notion de peuple va complètement disparaître. Et à partir du moment où la notion de peuple disparaît, on va tous se sentir tellement isolés qu'on va s'affaiblir énormément. Et c'est toute l'intention qui est cachée. Ça va peut-être encore durer 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, le processus est en route. Je termine. Nos maîtres nous disent que Marc Benayant à tout le monde qui est en marche. Je n'ai pas compris la question, qui est en marche? Oui, le processus est en marche, absolument. Marc, absolument, le processus est en marche. Je termine. Nos maîtres nous disent, c'est un langage codé, ne le prenez pas à la lettre, qu'au moment de la délivrance, les deux fêtes qui resteront pour l'éternité, c'est la fête de Pourim et la fête de Hanouka. Alors, justement, il y a un lien très étonnant entre la fête de Pourim et la fête de Hanouka. La fête de Pourim, comme on le sait, Aman, qui était le premier Hitler de l'histoire, a voulu exterminer physiquement les Juifs. Il n'a fait aucun décret contre la Torah d'Israël, puisque lui voulait exterminer les Juifs, physiquement, comme Hitler. Par contre, ce que je n'ai pas encore dit, et maintenant je le dis, dans la quatrième partie, nos maîtres nous expliquent que les Grecs ne voulaient pas tuer les Juifs, mais voulaient les priver de la Torah. Ils ont fait des décrets inimaginables, interdiction de se circonciser, interdiction de faire Shabbat, interdiction de manger kasher, et quantité d'autres interdictions. Et si un était pris à se circoncire ou était pris à faire Shabbat, il était immédiatement exécuté, puisqu'il allait à l'encontre du décret grec. Mais il n'y avait pas une volonté d'exterminer les Juifs comme Aman voulait le faire. Et donc on voit que les Grecs voulaient détruire l'âme d'Israël et les Perses, Aman surtout, voulaient détruire le corps d'Israël. Et finalement, c'est quoi? C'est finalement empêcher l'unité entre l'âme et le corps. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance finale, ces deux fêtes resteront le modèle éternel. Pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité toute entière, puisque Mordechai est arrivé à vaincre Aman et les Kohanim sont arrivés à vaincre les Grecs, ça veut dire que les Kohanim sont arrivés à sauver l'âme et Mordechai est arrivé à sauver le corps. Et donc, on retrouve l'union entre l'âme et le corps. Donc, vous voyez, et je terminerai juste, j'ai oublié de le dire, pourquoi justement nous allumons les bougies à la tombée de la nuit? Pourquoi nous les mettons à la fenêtre pour, entre parenthèses, éclairer l'obscurité qui est à l'extérieur? Parce que justement, tout le but, on pourrait dire, d'une spiritualité authentique, ce n'est pas de briller dans une église ou dans une synagogue. Le but d'une spiritualité authentique, c'est d'éclairer la nuit de ce monde. Ça veut dire de rentrer dans ce monde pour l'éclairer. Ça, c'est la véritable spiritualité qui a malheureusement disparu depuis des millénaires et qui reste peut-être chez une poignée d'hommes et de femmes authentiques un peu partout dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on met la Hanoukia, qu'on met les bougies à la fenêtre, pour justement montrer que le but ultime, véritable, authentique d'un croyant authentique, de quelqu'un qui est connecté au vrai Dieu, n'est pas de s'enfuir dans ce que Marx appelait l'opium des peuples, mais d'éclairer ce monde. C'est ça notre mission, d'éclairer ce monde. Marx, Alain, on parle désormais en France de polypique au lieu de politique. Oui, absolument, de polypique. Mais vous savez, mes amis, je terminerai juste, bon, je sais que j'ai pris énormément la parole, mais vous savez qu'il y a un commentaire, malheureusement, je ne sais plus où il est, mais je l'ai lu de mes propres yeux, il est très connu en Israël, un commentaire qui remonte à peu près de 300 ou 400 ans, et il s'appelle le Radak, ce commentaire-là, où il dit que juste avant la délivrance finale, l'humanité tout entière sera piquée avec des piqûres pour l'affaiblir et la faire tomber devant les dirigeants. Mais vous imaginez un commentaire qui date de... C'est marqué jusqu'à aujourd'hui dans nos textes. Que l'humanité tout entière sera piquée avec des piqûres pour l'affaiblir et la faire tomber devant les dirigeants de ce monde, juste avant la délivrance finale. Mais comment, il y a 300, 400 ans, un commentaire a pu dire une chose pareille? Bon, certainement, il avait sans doute un esprit prophétique. Mais vous imaginez, et on vit exactement cette période aujourd'hui. Et il parle de piqûres, des piqûres en hébreu, qu'on va piquer l'homme avec ça pour l'affaiblir. Voilà, mes amis. Alors, je vous cède la parole. Qui c'est qui veut parler?
Raph, oui. Il y a une vidéo sur YouTube où Kamala Harris il est en train de se faire vacciner, mais la guilla, c'est un plastique.
Mais bien
donc,
sûr.
C'est clairement une simulation et ça se voit dans la vidéo comment il se moque de nous.
Mais nous, on l'a vu en Israël. Vous habitez où? Vous êtes espagnol?
En France, mais je suis espagnol, oui.
Ah oui, très bien. Eh bien, écoutez, nous, on l'a vu en Israël, cette chose-là. Moi, je ne citerai pas le nom, mais on voit un dirigeant israélien qui se fait soi-disant vacciner, d'accord? Et on voit de près la piqûre, il n'y a pas d'épine. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça, une épine?
Il n'y a pas d'aiguille.
Il n'y a que le truc et on voit qu'il n'y a pas d'aiguille. Après, cette vidéo, elle a été censurée parce qu'ils ont compris que le médecin, il avait oublié de faire semblant de mettre une aiguille. Et on voit un dirigeant se faire vacciner. C'était le premier. Regardez, hein, tout le peuple doit me suivre, je me vaccine. Et on voit uniquement la piqûre sans l'aiguille. Ça remonte à 2 ans.
Le président égyptien aussi, il a fait semblant.
Ou alors, ils ne font pas semblant. Mais par contre, il y a de véritables vaccins qui sont créés pour les dirigeants, de véritables vaccins, et que eux éventuellement les prennent. Mais regardez, en Israël, il y a des gens qui sont vaccinés 3 fois et qui ont encore le corona après la 3e vaccination. Et je peux vous citer, mais c'est absolument incroyable. Des gens sont vaccinés 3 fois et ils chopent le corona après, et pas la variante qui vient de sortir, hein, pas celle-là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose d'absolument incompréhensible. Où c'est qu'on voit un enfant qui est vacciné contre la variole et qui va choper la variole une semaine après? Où c'est qu'on voit un enfant qui est vacciné contre la tuberculose et qui va choper la tuberculose une semaine après? Mais chez nous et dans le monde entier, tu peux te faire vacciner 3 fois et tu chopes encore une fois le corona. Et pas celui de la nouvelle variante. Je parle de cas avant que commence à apparaître la nouvelle variante. Voilà, mes amis. Merci beaucoup pour votre question, Maciel. Oui, Agnès.
Bonjour, Raph. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Pour revenir au Kohanim.
Oui.
Donc, les Kohanim, c'est bien la 13e tribu.
C'est la 13e tribu. C'est pour ça que le mot 13 a pour valeur numérique Echad, l'unité.
Alors, en fait... Est-ce que ce serait le fait de, quand tout s'effondre, il ne faut pas toucher au 1. Et à ce moment-là, quand on touche au 1, il y a un réveil, et même les religieux, surtout les religieux, doivent préserver ce 1, et que ce soit la guerre, et même pendant, si c'est pour la période du Shabbat ou quoi, il n'y a plus rien qui compte, parce qu'il faut protéger le 1 et ce sont les soldats de Hachem.
Alors, une fois de plus, Agnès, vous révélez quelque chose d'une justesse inimaginable que je vais expliquer en d'autres termes. J'ai expliqué dans de nombreux cours que la lumière de la délivrance se cache précisément dans l'obscurité la plus noire. Ça veut dire là où les forces obscures essayent de tout faire pour affaiblir l'humanité tout entière afin de la dominer, c'est précisément dans ces actions-là que se cache la lumière de la délivrance. On ne comprend pas comment c'est possible. Mais malgré tout, je vais aller dans votre sens. Quelle est en vérité, on le ressent tous aujourd'hui, quelle est l'intention en vérité aujourd'hui qui se cache derrière tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du corona, etc. Isoler les hommes. On nous isole. Puisque par exemple en Israël, j'imagine que c'est comme ça un peu partout dans le monde, vous savez qu'il y a des tas de gens qui en vérité restent 3 jours chez eux à la maison, travaillent sur leur ordinateur et ne vont plus dans les sociétés. Aujourd'hui, nous ne pouvons pratiquement plus rentrer dans une administration. Tout c'est sur application. Ça veut dire qu'on est en train de créer un système aujourd'hui où finalement l'homme n'a plus aucun contact avec un être humain. Tout c'est sur l'application. On n'a plus besoin d'aller dans une banque aujourd'hui. Tu peux faire tout sur application, etc. On interdit les réunions à plus de 50 ou 100 personnes, etc. Il y a tout un projet, effectivement, d'isoler l'homme. Donc, finalement, d'empêcher l'unité. Et c'est précisément dans cette obscurité d'empêcher l'unité, comme vous avez dit d'une manière extraordinaire, que se cache le réveil qui va pousser les hommes et les femmes à rechercher l'unité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais donner un autre exemple que malheureusement je n'aime pas donner parce que bon, ça fait très mal, mais Hitler a voulu exterminer le peuple juif, 3 ans après nous renaissons sur notre terre. Mais qui ne comprend pas le message? Que lui voulait détruire Israël et précisément 3 ans après on renaît sur notre terre, en 48, alors que la guerre se termine en 45. On comprend donc en vérité que, bien que je vous avoue franchement que je ne le comprends absolument pas Dieu, on ne peut pas le comprendre, mais enfin dans beaucoup de domaines, mais en vérité, oui, Jean-François dit que le Radak a vécu en France, oui absolument, il a vécu en France, il y a à peu près 300 ans, absolument Jean-François. Et donc, lui voulait détruire Israël et son action a amené la renaissance d'Israël sur sa terre. On voit donc qu'il y a un système fondamental. Là où le mal attaque, c'est précisément le contraire qui va se passer. Vous comprenez? Et donc, c'est toujours comme ça. Comment Dieu fonctionne et fait fonctionner les choses, franchement, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a permis la Shoah. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que le résultat, c'est la renaissance d'Israël sur sa terre. Comme je l'ai expliqué souvent dans mes cours, la première fois que des milliers de Juifs sont revenus sur leur terre, c'était après l'Inquisition. Après l'Inquisition, des milliers de Juifs se sont dit « Allez, qu'est-ce qu'on fait en Europe? On repart sur notre terre. » Et ils ont construit la ville de Tzfat, là où on dit que le Mashiach se dévoilera. En Israël, il se dévoilera pour la première fois dans la ville de Tzfat. Donc, ça veut dire que chaque obscurité fait naître une lumière. C'est exactement le système qu'on voit. Donc maintenant, on comprend pourquoi Dieu a choisi que la dernière grande guerre contre l'humanité, c'est l'isolement des hommes et des femmes, parce que c'est cet isolement qui va amener le réveil de la recherche de l'unité, comme vous l'avez dit, exactement.
Voilà. Raf, par rapport à la situation de France, et si Macron il est à nouveau réélu, on ne va pas voir un changement énorme dans la situation qu'on vit maintenant. Comment cette rébellion il va naître d'ici, quand la plupart des Juifs ils sont en train de partir à Israël, quand les gens ils sont de plus en plus pris par ces téléphones. Et moi, je pensais d'abord que Zemmour, pour être juif, et voilà, il pouvait faire un changement, mais on voit de plus en plus qu'il perd la tête. Donc, je ne sais pas quoi penser, franchement.
Écoutez, je vais vous répondre d'une manière qui est très simple. Nos maîtres nous disent, mais je veux bien sûr l'interpréter d'une manière moderne, même quand un homme a le tranchant de l'épée sur sa nuque, il ne doit pas se décourager d'être sauvé. Ça veut dire quoi? On va lui trancher la tête et il ne doit pas se décourager d'être sauvé. Alors, beaucoup de commentaires s'étonnent sur cette phrase qui est dans le Talmud et répondent de la manière suivante. C'est précisément quand l'homme touche le fond qu'il peut peut-être se réveiller. Tant qu'il est encore plus ou moins entre le haut et le bas, bon, ça va, d'accord. Mais quand il touche le fond et qu'il sait qu'il n'a plus d'autre choix, c'est là qu'il se réveille. Et donc, c'est ça ce que signifie cet enseignement. Quand tu as le tranchant de l'épée sur la nuque, ne te désespère pas d'être sauvé. Ça veut dire que si tu arrives à réveiller en toi ces forces qui vont te permettre finalement d'être sauvé. Donc, pour aller dans votre sens, je dirais presque que c'est précisément au fur et à mesure que tous les dirigeants vont continuer à nous diriger. On sait très bien ce qu'ils ont fait à Trump, on sait très bien qu'ils ont tout faussé à Trump. Ils ont tout faussé pour le faire tomber. Les faux sondages, on le sait aujourd'hui, mais bon, mais comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas le dire. Mais c'est justement, plus le mal va nous écraser, et c'est ce qui va permettre justement de se réveiller. Comme quelqu'un qui touche le fond, ben, il remonte, vous comprenez? Donc, je pense qu'il ne faut... Bon, c'est sûr que c'est grave le fait qu'on voit que de plus en plus aujourd'hui, partout dans le monde, les dirigeants en place, il y a très peu de chances qu'ils vont être remplacés. On sait tous qu'est-ce qui se cache derrière. On sait tous que la situation risque de devenir de pire en pire. Mais d'un autre côté, c'est la seule possibilité pour que les peuples se réveillent. Parce que malheureusement, tant que quelqu'un il a le frigidaire plein, tant qu'il peut encore de temps en temps aller au restaurant, tant qu'il peut encore voir un bon film, il est tranquille, comprenez? Mais quand tout va s'arrêter et qu'il va se rendre compte qu'il a le dos contre le mur et que regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont fait en Autriche. En Autriche, ils ont confiné tous ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est incroyable, comprenez? Et donc, je ne sais même pas comment ils font pour aller faire des courses, pour aller manger, pour aller se nourrir. Bon, j'ai une élève qui est en Autriche, un jour je lui demanderai d'ailleurs ce qui se passe. C'est une Française qui vit en Autriche. Je lui demanderai un petit peu comment ils font pour manger, comment ils font pour se nourrir. Mais on voit que on nous pousse de plus en plus vers une situation qui est inacceptable. Et quand l'homme n'en pourra plus, les hommes et les femmes authentiques vont se révolter. Ça sera ça la véritable révolte. Comprenez? Donc, encore une fois, je me répète, il ne faut pas être trop mécontent du fait que le pouvoir nous écrase, parce qu'il va y avoir un moment où il y aura une grande révolte. Oui, pardon.
Oui, moi je veux bien témoigner, c'est Catherine qui parle. Oui. Bonjour Rav. Moi je veux bien témoigner, moi je suis une soignante qui a été suspendue, et je suis en lien avec beaucoup de soignants. Et c'est vrai que la situation...
Pourquoi vous avez été suspendu parce que vous n'étiez pas vacciné?
Voilà, exactement.
Donc vous êtes un vrai être humain alors.
je suis en route vert en tout cas. Et en tout cas, du coup, dans les hôpitaux français, c'est vraiment la panique. Il y a des services de pneumologie entiers qui sont en train de fermer. Les soignants qui sont restés commencent à se rendre compte que c'est plus possible et ils vont arriver les effets secondaires des vaccins et commencent à se poser beaucoup de questions. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à un moment où la situation est vraiment critique pour qu'un certain nombre de gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe, quoi. Et surtout dans le monde des soignants, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pro-vaccin, quoi. Et en fait, là, beaucoup sont en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de démissions, beaucoup de burn-out chez ceux qui sont restés dans les hôpitaux et en libéral un peu moins, mais malgré tout, les gens ont beaucoup de problématiques pour trouver des médecins, quoi. Donc voilà, tout doucement, il faut beaucoup de patience, mais...
Absolument, vous avez 100% raison et je vous donnerai un exemple qui confirme ce que vous dites. Vous savez qu'en Israël, par exemple, dans les hôpitaux, Et moi, je le sais bien parce que, mais je le sais de façon par ailleurs, mais j'ai une preuve réelle. J'ai un élève à moi en Israël, un francophone. Son père est mort du cancer et à l'hôpital, ils ont dit qu'il est mort du corona pour pouvoir augmenter les chiffres. Et ils ont pris un avocat pour attaquer l'hôpital. Et au bout de quelques semaines, l'avocat dit, moi, écoutez, je ne vous aide plus. C'est un combat perdu d'avance. Eux, ils ont compris qu'il a dû recevoir une belle somme d'argent pour pouvoir arrêter. Mais vous vous rendez compte? Et son père est mort du cancer et à l'hôpital, ils ont dit, il est mort du corona. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un trafic inimaginable. Inimaginable, mais partout dans le monde. Vous comprenez? Est-ce qu'on est sûr que les chiffres sont vrais? Est-ce qu'on est sûr que tout ce qu'ils nous disent est vrai? Ou c'est simplement pour nous faire entrer dans un état de panique inimaginable?
Là, en fait, il y a des statistiques dans les hôpitaux parce qu'on est obligé de coter les actes. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il s'avère que les résultats sur 2020, c'est que seulement 2% des lits ont été c'était Covid, quoi. Seulement 2%.
Oui, ben...
Donc, c'est moins que la grippe, quasiment.
Moi, je pour vous confirmer ce que vous dites, j'ai un élève qui est un grand médecin ici en Israël et je l'ai rencontré un jour, bon, il ne vit pas à Jérusalem, j'ai rencontré un jour quand je priais dans une autre ville, on s'est rencontrés et il m'a raconté exactement ça. Bon, lui, il ne s'occupe pas du Covid, lui, c'est un médecin dans le domaine. Mais il a dit un jour, il est rentré dans un hôpital pour voir exactement si c'était vrai qu'on disait que les hôpitaux débordent de gens qui ont le corona. Il est rentré dans l'hôpital, d'accord. Il a vu deux ou trois personnes qui avaient le corona. Ça l'a rendu fou. Il ne comprenait pas. Alors qu'on parlait de cet hôpital comme un hôpital qui est bourré de gens qui ont le corona. Il a été demandé au médecin qui s'occupait de cette section-là. Mais je ne comprends pas. Je n'en vois que deux ou trois. Qu'est-ce qui se passe? Et ils lui ont répondu, on a reçu des ordres d'en haut.
Oui, je voudrais intervenir sur deux, trois petits points.
Merci beaucoup, Catherine. Oui, Harry.
Non, c'est Marc.
Excusez-moi, Marc.
Ouais. D'abord, je voudrais revenir un peu sur ce que nous pouvons être amenés à croire. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité énorme de ce que vous appelez, à mon avis, avec raison, les religieux. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y a un serpent qui donne une pomme, enfin, on nous fait croire au Père Noël à des tas de choses qui sont un peu ridicules ou difficiles à croire, ce qui fait qu'après, on peut croire n'importe quoi. Et c'est ça qu'il y a c'est là où, à mon avis, il y a une responsabilité énorme de tous ceux qui sont censés enseigner la Torah ou peut-être même autre chose dans d'autres religions, d'essayer de créer du sens et du lien entre ce qui peut être écrit et ce qui est compréhensible et ce qui peut conduire vers une certaine vérité. Et dans le cours que vous avez donné aujourd'hui sur la lumière, effectivement, on peut se demander à quoi ça sert, ça veut dire quoi, l'impureté d'une huile. Enfin, ça a un côté quelque part dérisoire. Et effectivement, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, on continue de croire à un peu n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fondement. Et c'est ce qui fait qu'on peut nous faire croire des tas d'autres choses comme ce qu'on croit aujourd'hui. Donc, le petit message que j'avais passé tout à l'heure, c'était que tout l'argent qui est récolté avec les vaccins, c'est à mon avis pour le transhumanisme. Et les gens ne s'en cachent pas, notamment un certain Laurent Alexandre, celui qui a créé Doctolib, donc la plateforme pour prendre les rendez-vous médicaux. Donc lui, il est tout à fait là-dedans. Et le dernier point que je voulais signaler, c'est au sujet de ce que vous avez dit sur les Kohanim, qui étaient une petite armée de rien du tout, qui a pu vaincre les Grecs. Et effectivement, ça peut paraître assez étonnant que des Kohanim, donc des prêtres, puissent vaincre une armée. Et ça m'a fait penser à un certain Victor Frankl, qui était à Auschwitz, qui est un psychiatre, un médecin, et qui a remarqué ceci là-bas, c'est que les gens qui étaient les plus dans l'action, qui étaient les gros bras, les baraquets, etc., les Schwarzenegger, c'est ceux-là qui mouraient le plus vite. Et il s'est aperçu que ceux qui tenaient le plus, c'est des gens qui étaient peut-être un peu plus faibles, même beaucoup plus faibles physiquement, mais qui avaient une vie intérieure beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Et il en a développé toute une théorie, et, puisqu'il est, il est sorti d'Auschwitz, lui, et il a créé cette théorie qu'il a appelée la logothérapie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, ceux qui avaient une force intérieure s'en sortaient beaucoup plus. Et je crois qu'on y est en plein.
Absolument, vous avez 100% raison, et vous confirmez d'une autre manière ce que nos maîtres n'arrêtent pas de dire, que la femme est beaucoup plus forte que l'homme, parce que l'homme se réfugie derrière sa force musculaire physique, Et il ne développe pas sa force intérieure, alors que la femme qui n'a pas la force physique de l'homme, elle au contraire travaille sur sa force intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a je ne sais combien d'histoires racontées par nos maîtres qui nous prouvent que la femme est beaucoup plus forte que l'homme, parce que la force intérieure est beaucoup plus grande et beaucoup plus utile que la force uniquement musculaire. Voilà, absolument. Et donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Aujourd'hui, nous devons travailler sur notre force intérieure, notre capacité d'endurer toutes les épreuves et tous les mensonges de ce monde sans baisser la tête. Et ça, ça demande pas une force musculaire, ça demande surtout une force intérieure. Voilà, merci beaucoup, Marc. Alors, on va, avec votre permission, la dernière question maintenant, on va passer à Harry. Allez-y.
Oui, bonsoir. Bonjour. Dans un cours, je crois que c'était en 2014, vous aviez parlé que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne s'attaquait qu'aux religieux et aux gens qui étaient près d'Hachem et qui réfléchissaient, et pas au métro dodo boulot. Et on voit qu'aujourd'hui, ça a l'air de changer, parce que tous ces terroristes et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas des religieux du tout, qui sont attaquables par le Yetzer Hara apparemment.
Alors, vous avez une fois de plus 100% raison. Quand, je vais le dire plus dans le langage de nos maîtres. Nos maîtres disent, plus un homme est grand sur le plan de la lumière qui est en lui, plus le mauvais penchant l'attaque pour le faire tomber. Eh bien, je vais vous répondre tout simplement, cher ami, que le mauvais penchant a fait tomber 90% des religieux dans le monde, puisqu'ils sont tous déconnectés de ce monde. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est arrivé à finaliser son travail. C'est comme j'expliquais tout à l'heure que jusqu'à 10-15 ans, tout le monde orthodoxe en Israël interdisait à ses enfants de s'engager dans l'armée. Il est arrivé une période où les enfants en ont eu marre d'écouter les parents, leur ont dit non, on n'est pas d'accord, on peut très bien rester religieux même si on va à l'armée et si on se bat pour défendre notre pays. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants ultra-orthodoxes qui vont à l'armée en Israël, et qui sont des combattants d'élite inimaginables. Et donc, je veux dire que pourquoi le mauvais penchant a laissé tomber les religieux? Parce qu'il est arrivé à les faire tomber, en les déconnectant de ce monde. Donc maintenant, il s'intéresse à d'autres choses. Vous comprenez? Mais pendant des siècles et des siècles, le but ultime du mauvais penchant était de déconnecter le monde de la religion de ce monde pour finalement endormir les gens. Mais c'est l'alliance, comme je dis souvent, entre la noblesse et le clergé. Comprenez? Ça veut dire que des religieux authentiques, il y en a dans toutes les religions, mais ce n'est certainement pas le clergé. Le clergé, c'est l'établissement religieux. L'établissement religieux est complètement pourri, il est à la solde du pouvoir et à la solde de l'argent. Comprenez? Et quel est son travail? Ben, d'endormir tous les croyants en leur faisant croire que ne vous inquiétez pas, le Messie va venir, il va sauver le monde entier. Vous ne faites que prier. Mais surtout, ne vous battez pas, hein, parce que sinon, oh là là, voilà, c'est ça l'alliance entre le clergé et la noblesse qui existe même chez nous aujourd'hui, qui a toujours existé dans le monde entier. L'établissement religieux est complètement corrompu, est à la solde du pouvoir et de l'argent. Voilà, mes amis. Mais écoutez, on a passé un moment vraiment passionnant. Et vraiment, donc on se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, on se retrouve et on continue. Donc, merci à tous et à toutes. pour votre présence. On était nombreux aujourd'hui pour votre intervention. Cet après-midi, je refais un cours sur le Tanya que je mettrai aussi sans doute aujourd'hui ou plus tard demain sur le site. Une question. Est-ce que vous me permettez que ce cours-là, qui est vraiment fabuleux, je le donne pour tout le monde aujourd'hui? Vous me permettez?
Oui.
C'est un cours vraiment important et j'aimerais que beaucoup, beaucoup d'autres puissent l'écouter aussi. Et donc, je vais le mettre aussi pour tout le monde aujourd'hui. Donc, à tous et à toutes, on se retrouve dimanche prochain. Et voilà. Moi, je vais donner encore deux ou trois cours aujourd'hui parce que après, je prends un peu de repos, c'est la fête de Hanouka, donc à partir de mardi soir, je suis en vacances jusqu'à dimanche prochain. Vous m'autorisez à être en vacances? Dites oui.
Oui. Hanouka Sameya.
Très bien, à vous tous aussi. Et de toute façon, tel que je l'ai expliqué, mes amis, la fête de Hanouka concerne tout le monde. Puisque la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est éclairer la nuit de ce monde, éclairer l'obscurité de ce monde. Donc, c'est évident qu'elle vous concerne tous aussi. Donc, si vous voulez allumer une bougie ce soir, n'hésitez pas, faites-le, il n'y a pas de problème. D'accord?
Voilà.
Allez, que des bonnes choses. Merci à vous tous et à vous toutes.
Au revoir,
mes amis. Au revoir.
Au revoir.